Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, au Café Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Au Café Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, dans le Kinshasa.
Merci Dodé. Alain Kikwangiav, vous êtes à Kolwezi. Bonjour.
Ah, bonjour, merci Monsieur Genet, et bonjour également Monsieur le Ministre. J'aimerais un petit peu poser un peu une question qui a peut-être trois volets. Le premier volet d'abord va concerner bien sûr la loi, parce que le ministre a dit qu'il y a une loi déjà qui est en étude pour essayer bien sûr d'organiser un peu l'environnement. J'aimerais un petit peu savoir, avec les forêts que nous avons au Congo qui égorgent un peu des groupes armés, comment en fait on peut gérer ces forêts là-bas? Ça c'est la première, bon, le premier volet de ma question. Le deuxième volet de ma question, j'aimerais un tout petit peu savoir. Je sais que chaque fois que nous voyons le ministre à la télévision, il y a des organisations qui sont faites par, je crois, au niveau, sur le plan international. Le ministre, le gouvernement congolais demande à ce que nous soyons aussi financés sur le plan, en fait, nous soyons financés, bien entendu, par les grandes puissances, afin de bien conserver l'environnement pour lutter contre les réchauffements climatiques. Est-ce que jusqu'à présent, je vois chaque fois le ministre réclamer ça, est-ce que jusqu'à présent, on a déjà financé ou c'est toujours quelque chose qui est resté lettre mort? Ça, c'est le deuxième volet de ma question. Et le dernier volet maintenant de ma question, j'aimerais un tout petit peu savoir, le ministre a dit, le gouvernement congolais est pauvre. J'aimerais un tout petit peu savoir, est-ce que pour l'environnement, c'est en fait le gouvernement congolais qui doit financer, ou ce sont les privés qui doivent financer, et enfin, pour l'exploitation illégale des ressources naturelles? Quelle est la politique que l'environnement, en fait, le ministre de l'Environnement, a mis sur pied pour essayer de mettre au moins ça à cette exploitation illégale? Merci, monsieur.
Merci, Alain Kikwangiav de Kolwezi au Katanga. José Ndundo, vous avez la parole.
C'est beaucoup de questions. La plus facile, la plus simple, c'est évidemment la superficie de la forêt congolaise. C'est 145 millions d'hectares, c'est-à-dire 1 450 000 km².
Donc, de forêt tropicale.
De forêt tropicale, oui. Plus de la moitié de la superficie du pays est occupée par la forêt. Ça, c'est la première question.
Et c'est, on peut dire que c'est un patrimoine mondial.
Aujourd'hui, ça fait partie du patrimoine mondial. C'est un bien public mondial, le terme consacré aujourd'hui.
Oui.
Vous ne pouvez pas aujourd'hui décider de détruire la forêt comme vous le voulez, parce que vous auriez tout de suite la communauté internationale, parce que, et c'est ça qui fait la richesse de ce pays, parce que cette forêt est indispensable. Nous avons 10% de forêt mondiale. On ne peut pas aujourd'hui décider de faire disparaître. Donc, c'est une richesse pour
nous. C'est une richesse pour nous et pour le monde.
Et pour le monde.
Voilà. Salomon de Baraka vous pose cette question. Pourquoi ne pas, par exemple, mettre à profit les
il a raison.
Oui, il parle des précipitations, mais des chutes pour installer des barrages sur le fleuve.
Il faut voir que les réformes doivent être globales. Qu'est-ce que nous avions comme système aujourd'hui? Nous avions monopolisé toute la production d'électricité à SNEL. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a une loi qui vient et qui va indiquer qu'aujourd'hui, la production d'électricité est libéralisée. Donc, si demain vous êtes dans un village et que vous voyez un cours d'eau qui passe et que vous pouvez produire un peu d'électricité, vous le faites pour votre bien, mais aussi pour le bien du village ou bien. Donc,
la
vision est en train de changer.
Oui.
Mais il faut des moyens, mais c'est petit, ces micro-barrages vont produire de l'argent. Et cet argent va permettre non seulement de payer l'État, mais aussi de faire en sorte que le micro-barrage soit... Donc, il y a une vision nouvelle qui est aujourd'hui mise en application. Et le ministre de l'Énergie avance très fort par rapport à ça. Parce que nous sommes arrivés à la situation aujourd'hui en matière d'électricité où nous disons, nous nous en foutons, je m'excuse pour le terme, de qui produit l'électricité. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de l'électricité. Donc, c'est une vision nouvelle, moderne.
Voilà.
Donc, le secteur doit être libéralisé.
Voilà.
L'État n'a pas les moyens de produire des barrages dans l'ensemble. Nous avons le troisième potentiel hydroélectrique mondial, plus de 100 000 MW possibles, et nous avons un taux de desserte d'électricité de 7%. Il faut changer ce paradigme. Il faut une nouvelle vision par rapport à ça.
Voilà. Dodé Tabamba, au Kasaï occidental, vous pose cette question. Quelle est la politique du gouvernement en ce qui concerne pour associer les Pygmées à la gestion de forêts?
J'aurais aimé que cette question soit posée aux Pygmées eux-mêmes, parce que j'ai beaucoup de contacts avec eux. J'ai même eu des propositions. Pourquoi vous... Les Pygmées font partie de la communauté nationale. Ils sont totalement impliqués au mécanisme de développement du secteur forestier. Ils le savent. Nous avons des réunions en permanence. Nous avons un comité
avec les représentants des Pygmées.
Avec les représentants des Pygmées. Et aujourd'hui, il n'est pas possible de conduire une politique au gouvernement seul. Il n'est pas possible de conduire une politique qui exclut le secteur privé. Il n'est pas possible de piloter une politique qui exclut les populations. Et la vision que nous avons au ministère, nous avons chaque mois une réunion avec la société civile, celle qui nous est proche ou celle qui de temps en temps a une position contre la politique du gouvernement.
Oui.
Ben, toute cette société civile participe à ce que nous faisons en termes de RED, en termes de développement humain. Et nous avons besoin du concours de tout le monde, gouvernement, administration, secteur privé, société civile, les Pygmées. C'est absolument indispensable. Il n'y a pas de politique d'exclusion possible.
Voilà.
C'est une politique inclusive.
Avant de reprendre aux autres questions, il y a trois auditeurs qui attendent. Évariste Outeni nous appelle de Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Ingénieur Mangoyo est à Kinshasa et Jérémy Kabeya est à Kananga, au Kasaï occidental.
Pour l'agenda culturel tous les jours, les concerts à ne pas rater, les nouveaux disques, peintures ou photos, les expositions à voir. Les artistes ont le rendez-vous sur Radio Okapi. La culture congolaise est bien vivante, nous la mettons en valeur. L'agenda culturel tous les jours à 6h20, 8h15 et 14h10.
Mauvaise exploitation de la forêt, quels sont les effets sur le climat? Nous en parlons aujourd'hui avec José Ndundo Bononge, ministre de l'Environnement. Évariste Outeni, vous êtes en Mbandaka, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, quelle est votre question?
Oui, ma préoccupation est la suivante. Parce que ici, dans le monde, il y a des grands pollueurs. Et les grands pollueurs sont vraiment riches. Et nous, on nous dit de conserver la nature. Parce qu'on connaît très bien que ici, dans la province de l'Équateur, nous avons une grande forêt. C'est normal, mais les habitants de l'Équateur sont vraiment pauvres. Mais je veux savoir, parce que c'est normal qu'on puisse conserver notre forêt. C'est vraiment normal. Mais je veux savoir, parce qu'il y a de grands pauvres, ils sont riches, mais nous sommes pauvres. Mais maintenant, quelle est notre part, hein, en compensation avec les pays riches? Les pays riches, ils sont des grands pollueurs. Maintenant, je veux savoir quelle est notre part.
Merci, Évariste Outeni. Ingénieur Mangoyo, bonjour.
Exactement.
Vous êtes à Kinshasa, quelle est votre question?
Oui, je voudrais demander à M. le ministre. Il a parlé tout à l'heure des financements extérieurs qui est minime, des centaines de millions, tout ça. Je voudrais savoir exactement combien la taille de ces financements que nous avons déjà reçus. Et avec ça, qu'est-ce que nous avons déjà fait? Ça, c'est la première préoccupation. Et la seconde préoccupation, en les suivant, j'ai comme l'impression le gouvernement se plaint toujours de manque de moyens. Toujours de manque de moyens. Alors moi, je voudrais savoir, quand il parle de la volonté politique, il fait allusion à qui? Lui, il est membre du gouvernement. Cette volonté politique viendra de qui doit faire cette volonté politique-là? Est-ce que le ministre en charge ou bien d'autres personnes? Ça, c'est deux, trois. Eh bien, au niveau, j'ai l'impression que le gouvernement est dépassé par l'étendue du pays. Moi, je propose que la politique des ETD, donc des entités territoriales décentralisées, soit renforcée, parce que j'ai l'impression qu'il y a tout à ça. On ne contrôle plus rien. Il n'y a aucune politique au niveau des millions de ruraux qui nous disent un peu si, au niveau des entités territoriales décentralisées, s'il y a un suivi efficace à ce niveau-là.
Merci, ingénieur Mangoyo. Jérémy Kabeya, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Jérémy.
Ok. Je suis de l'ONG Action Locale pour la protection de l'environnement dans les Sankours.
Ok.
Monsieur le ministre. Et chaque fois quand il y a les abattages ou les gens qui fabriquent le braise, hein, ou le brique, les gens qui font couper les arbres, il y a toujours quelque chose qu'on doit payer à l'environnement ou taxe sur le reboisement. Un exemple encore, les gens qui ont coupé les chemins quand ils ont coupé les arbres sur le boulevard. On nous a dit non, ça va être reboisé quelque part. Mais nous sommes en train de nous plaindre. Nous allons faire organiser les 10 au 11, c'est quoi cette conférence-là. L'argent que les gens payent hein, à l'environnement, localement, naturellement, qu'est-ce que le ministre fait avec? Parce que tu me démontres quand même quelque part où ils ont reboisé 100 hectares ou 200 hectares. Nous sommes à la base, c'est le ministre avec l'environnement qui sont à la base de ce que nous permettons chaque jour.
Merci Jérémy, c'est votre point de vue. Jodin Dundo.
Oui, beaucoup de questions.
Beaucoup de questions. On va peut-être prendre, commencer par Alain de Colosi qui posait la question de savoir comment gérer les forêts avec tous ces groupes armés qui pullulent dans notre pays.
C'est clair, c'est un problème. Les groupes armés qui déciment, quelquefois même les populations qui déciment les richesses naturelles qui exploitent illégalement. Donc, ce qu'il faut, c'est lutter contre la pauvreté. Dans les pays développés, vous n'avez pas de groupes armés. La notion de groupe armé est liée quelque part à la situation de pauvreté. Et le combat que nous avons aujourd'hui, je répondrai à quelques questions qui sont posées tout à l'heure.
Mm-hmm.
La donne aujourd'hui, c'est de faire qu'il y ait de plus en plus de richesses, que l'on puisse, et puisque la forêt peut produire cette richesse, le combat c'est de dire qu'est-ce que cette forêt va nous rapporter puisque nous puissions éradiquer ces groupes armés qui perturbent le fonctionnement normal de l'État, qui tuent, qui violent, qui pillent. Il faut mettre fin à cela. Donc, c'est une politique qui demande des moyens, et la forêt apportera des moyens. C'est une politique qui demande une conviction politique. Je crois que ce gouvernement a cette détermination politique de mettre fin, d'éradiquer tous les groupes armés qui sévissent et qui sont le mal qui est fait aujourd'hui.
Alors, Alain de Colosi pose une autre question. Pour préserver la forêt, est-ce que le gouvernement doit venir essentiellement des bailleurs de fonds ou les gouvernements aussi congolais peut financer?
Est-ce qu'il y a une honte à ce que la communauté internationale, qui reconnaît le bien fondé, qu'il faut une politique contre le dérèglement climatique? Il n'y a aucune honte à dire que notre forêt vaut de l'argent et qu'il faut se battre pour avoir cet argent. Nous savons tous la modicité de notre budget. C'est quelque chose qui n'est pas d'aujourd'hui, qui date de plusieurs dizaines d'années. La correction qui est faite aujourd'hui, c'est qu'il faut que tout ce qui peut concourir à créer de la richesse doit être amené dans le pot commun. Quand on me pose la question, qu'est-ce que le ministre fait avec l'argent que les gens payent pour les questions environnementales?
Oui.
Cet argent va dans les trésors publics et dans
les taxes de reboisement.
Par exemple, les taxes de reboisement, pendant des années, il n'y a pas eu. Les taxes de reboisement ont été versées dans le compte du trésor public. Aujourd'hui, nous sommes en train de dégager des moyens pour commencer le reboisement. C'est inexact de dire qu'il y a quelques hectares. À Mampou, par exemple, il y a plus de 8000 hectares qui ont été plantés. Hier, j'ai eu des discussions avec le secteur privé pour porter cela à 20 000 hectares. Et donc, c'est une politique qui doit être de plus en plus assise. Elle demande malheureusement un peu de temps. Nous avons maintenant la possibilité de reboiser à l'est du pays. Nous avons aujourd'hui des moyens, suite au gouvernement britannique et norvégien, de développer une politique de reboisement autour de Kinshasa. C'est des actions à long terme qui permettent de fonctionner normalement. Il y a une question qui a été posée sur les pollueurs.
Oui, et Paris, c'est de Mbandaka qui a parlé des grands pollueurs qui sont dans les pays riches.
Il y a aujourd'hui, dans le contexte mondial, il y a aujourd'hui un principe qui est accepté, qui est adopté. Pollueur-payeur. Vous polluez, vous devez payer. Et lorsque nous menons le combat pour que, après ce dialogue, ce forum qui aura lieu, dans le débat politique que nous allons avoir, nous allons demander l'année prochaine quelques centaines de millions de dollars pour la RDC. Eh bien, c'est justement pour dire à la communauté internationale, c'est vous qui, historiquement, portez la responsabilité du dérèglement climatique. Vous devez payer. Vous avez profité du dérèglement climatique pour vous enrichir. Une partie de cette richesse, et il n'y a pas de honte à le dire, une partie de cette richesse doit revenir à des pays comme nous, qui avons été vertueux dans la gestion de nos ressources naturelles. Donc, Il faut éviter des questions, de comportement dogmatique. Il faut savoir que la forêt doit rapporter de l'argent. Oui. Il faut se battre pour que ça rapporte de l'argent.
Les
gens
se demandent quelle est notre part, donc en compensation de la population pauvre de l'Équateur. Quel bénéfice c'est pour les populations?
Je suis de l'Équateur, je sais bien que je viens d'une province malheureusement très pauvre. Et donc le combat aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette forêt que nos ancêtres de l'Équateur ont préservé puisse rapporter de l'argent aux populations de l'Équateur. Il y a des actions, je ne vais pas entrer dans les détails, des actions qui ont commencé et qui vont se poursuivre, mais comme toujours, lorsque vous impliquez, il y a 193 pays qui sont impliqués dans ce processus. Ça demande donc des discussions très longues. Il y a une dizaine de bailleurs de fonds qui sont impliqués dans ce... Ça demande des discussions très longues. Mais, aussi longue soit la nuit, la lumière viendra.
Voilà. Ingénieur Mangoyo, rapidement, on va clôturer. Il vous pose la question de savoir quelle est la taille du financement reçu, qu'est-ce qu'on en a fait. Alors, vous parlez de la volonté politique, elle viendra de qui?
Et
il propose que les entités décentralisées soient renforcées pour gérer ce genre de questions.
C'est clair, vous savez, nous nous sommes trouvés en face de situations extrêmement difficiles. Nous devons assurer la démocratie, ça en coûte, ça demande beaucoup de temps. Nous devons aussi assurer la décentralisation. Mmh. C'est clair que le processus de décentralisation est le seul processus de développement possible pour ce pays. Il faut du temps qu'il se mette en place, il y a des lois qui ont été prises, cet effort se poursuit, et nous avons la volonté de continuer dans le développement des entreprises.
Voilà, José Ndundo, nous allons conclure. Alors, dites-nous, quelle est, disons, la population, comment peut-elle exploiter au mieux la forêt pour éviter le réchauffement climatique?
Ben, la forêt, ce que nous faisons, c'est pas une question seulement de la population. C'est une question qui concerne tout le monde. Gouvernants, gouvernés, population, société civile, je l'ai dit tout à l'heure. Tous les acteurs sont impliqués. La tâche est colossale et on ne peut pas laisser à un seul secteur la possibilité de préserver cette ressource. Ce qu'il faut, c'est que nous puissions créer les moyens de développement pour, aujourd'hui, dans le Nord Kivu, on construit un micro-barrage à 1 MW. Ça permettra de réduire la production, la consommation du bois de chauffe, de ce qu'on appelle communément le makala. Il faut qu'il y ait un développement, et ce développement est assuré par les efforts internes que nous faisons. Nous venons de mettre en place un nouveau DCRP, un document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté.
Oui.
L'environnement, pour la première fois, est le quatrième et dernier pilier, avec le changement climatique. Donc, il y a des ressources exceptionnelles qui vont venir de cette composante de notre document de stratégie de lutte contre la pauvreté. C'est un combat global qui implique les entités décentralisées, qui implique le gouvernement, la société civile.
Oui.
Ce qu'il faut, c'est y croire. Ce qu'il faut, c'est se faire confiance. Ce qu'il faut, c'est adresser les bailleurs de fonds, adresser les pollueurs, ceux qui nous ont mis dans cette situation dramatique, doivent en payer le prix.
Voilà. Merci José Ndundo Bononge, ministre de l'Environnement et Conservation de la Nature. Et nous rappelons que le forum des hauts niveaux sur la forêt et les changements climatiques pour le développement en RDC se tiendra le lundi et le mardi prochain à Kinshasa. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler à l'issue, après la tenue de ce forum. José Ndundo Bononge, merci et à la prochaine.
Je vous remercie.